nous inspirer de belles traces pour nous faire rêver. Oh, 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 de belles traces.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Belles Traces. Savez-vous quel est le sport collectif le plus rapide ? Entre la vitesse de déplacement des joueurs et celle du puck ou du palais, eh bien, sûr, c'est le hockey sur glace. Alors, je suis allée à la rencontre de celui qui patinait très très vite, d'une légende qui a marqué l'histoire de son sport et qui continue puisqu'il est entraîneur de l'équipe de France actuellement. Premier joueur français dans la fameuse NHL. Il a ouvert la voie et décomplexé de nombreux jeunes joueurs et surtout leur a ouvert de nouveaux horizons. Alors je suis vraiment ravie de tendre mon micro à Philippe Bozon pour qu'il nous parle de sa longue et riche carrière notamment. Salut Philippe, comment tu vas ?
Salut, ça va très bien, merci.
Alors là on est en visio et il y a un gros logo derrière toi parce que tu es entraîneur de l'équipe de France.
C'est ça, j'ai gardé mon logo des visios annuels qu'on fait, on en fait beaucoup.
Oui.
Effectivement, je suis depuis 4-5 ans, je suis entraîneur de l'équipe de France. Je travaille aussi à la fédération. C'est pas juste ma seule casquette au sein de la fédération. Je chapeaute tout le projet du hockey masculin à la fédération aussi. Et donc, je suis impliqué dans le hockey de 16 ans à senior.
Ah, c'est incroyable. Alors, ta femme Hélène m'a dit que tu avais un peu changé. Tu changes un petit peu des fois de type de crosse dans les mains. Des fois, tu joues avec un puck qui a une forme d'une petite patte blanche. Hein. T'aimes bien ça, le golf. Mais sinon, par contre, le hockey, c'était dans tes gènes, quoi. Parce que t'as jamais quitté le hockey, en fait.
Non, c'est ça. Je pense que c'est ma vie. Voilà, c'est assez simple à résumer. C'est ma vie depuis que je suis né quasiment. Ça date l'époque bon, mon père jouait. J'étais dans des stations de ski. Je suis né à Chamonix, mais j'ai vécu à Megève toute ma jeunesse. C'était le ski ou le hockey.
Alors pourquoi t'as pas choisi le ski?
j'accrochais pas au début sur le ski. Et effectivement, j'ai jamais vraiment essayé le ski. J'ai essayé d'autres sports, le tennis notamment. Je faisais beaucoup de tennis, j'avais un classement. J'ai fait un peu de foot, mais c'est clair qu'au bout d'un moment, on doit choisir un sport. On peut pas être multisport, c'est impossible. Et puis, ça a toujours été dans mes gènes. Mon père, qui avait à l'époque un restaurant, le Puck, il y avait une grande place devant, un jeu de boules, mais l'hiver, il me l'arrosait pour moi, pour que je puisse jouer avec mes copains qui venaient après l'école. Donc voilà, c'était dans mes gènes dès le début et j'ai tout de suite accroché. On est né la crosse à la main, c'est le terme. Et ça me suit depuis, et on va dire que c'est vrai que c'est aussi familial maintenant, puisque mes deux garçons sont dedans aussi. Et voilà, c'est ce qui m'accroche en permanence. Alors, je suis né pour ça et je vis pour ça. Et je suis content de pouvoir essayer de retransmettre un petit peu le flambeau aux générations actuelles et de continuer ma passion.
Ouais, c'est génial. Mais alors justement, tu parlais de le fait d'être né avec une crosse à la main. Qu'est-ce qui te plaît aussi dans le hockey? Parce qu'il y a une vraie notion de glisse. Enfin, moi, une fois, j'avais participé avec le CNOSF à une journée bleue où on allait sur une patinoire. Alors nous, des fois, en tant que skieur, on fait un peu du hockey roller, on fait un peu de hockey, mais... Et en fait, quand tu vas sur la patinoire et qu'avec toi, autour de toi, t'as des vrais hockeyeurs, c'est comme dans tous les sports, hein, mais c'est juste incroyable parce qu'en fait, toi, t'as fait 10 mètres et en fait, vous, les hockeyeurs, vous nous avez déjà fait 3 fois le tour, quoi, de nous. Et toi, qu'est-ce que tu aimais donc dans la sensation de glisse? Il y avait le jeu. Toi, t'étais attaquant, marqué, aller dans cette, marqué dans cette petite cage. C'est quoi qui te plaisait? Enfin, qui te plaît toujours d'ailleurs.
Ouais, je trouve que c'est un tout. Moi, je pense que c'est un sport qui est très complet. est assez difficile finalement à maîtriser puisque contrairement aux autres sports collectifs, on va dire que quasiment tout le monde sait marcher et courir. Donc, quand tu veux faire du hand, du basket ou football, c'est plus facile. Là, il faut quand même d'abord maîtriser le patinage. Et déjà maîtriser le patinage, c'est quelque chose. Patinage avant, patinage arrière, changement de direction, tout va très vite comme tu l'as dit. Et puis après ça, il faut maîtriser la crosse, le maniement et faire les jeux. Et tu mets tout ça après dans le collectif où là, ils commencent à avoir des duels aussi. Et il y a cet aspect aussi de duel, de combat physique. Voilà. Et tout ça à une grande vitesse. Donc, moi, je trouve qu'on allie beaucoup, beaucoup de, on a besoin de beaucoup de qualité pour jouer. Je trouve que c'est un sport qui est très complet, et très rapide. Et même si en France, on a pas cette notion de, parce qu'à la télé, souvent, c'est pas très bien filmé en France, mais quand on a les caméras nécessaires dans les championnats du monde ou en NHL, c'est un sport qui, voilà, quand les gens vont le voir en vrai, j'en connais pas beaucoup qui sortent pas enthousiasmés et qui se disent finalement, ah ouais, mais c'est pas comme à la télé, c'est incroyable et ainsi de suite. Et oui, souvent en France, vu que c'est pas très bien filmé, on n'a pas cette sensation-là, mais voilà, c'est un sport qui allie toutes ces qualités et que je trouve moi génial et qui a du spectacle en permanence et que c'est rare que ça vive pas et que ça peut changer en 2 secondes, ça peut changer quoi, voilà.
Mais c'est vrai, quand tu le dis, quand on va voir sur le bar d'une patinoire, il y a aussi un impact physique avec des confrontations où vous bloquez ou vous vous faites bloquer contre les barrières. Avec, c'est juste, c'est phénoménal en fait. Enfin, il y a un bruit, il y a une sensation de puissance incroyable et puis quelque part de frustration parce que des fois tu dis, c'est bon, il est parti. Non, paf, il se fait bloquer enfin, tu te fais bloquer contre la barrière et tu as l'impression qu'il y a une faute. Mais non, en fait, ça fait partie du jeu. En fait, il faut jouer aussi avec les règles.
C'est ça, tout à fait. Il faut jouer avec les règles. Elles ont évolué. C'est un sport qui a aussi, pendant un moment, une mauvaise image puisque les bagarres sont permises hein, dans notre sport. Et puis on montrait beaucoup de ça. Je trouvais ça un petit peu dommage. Et du coup, ça faisait peut-être un petit peu peur aux gens dans le sens où ils estimaient que c'était dangereux, c'était trop physique, c'était violent. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. On n'a pas plus de blessures que les autres sports. Quand je vois les impacts au rugby, nous on a un équipement, on est protégé. Et c'est comme dans tout sport. Quand vous voyez le choc arriver, vous l'anticipez, vous êtes protégé. Il y a pas plus de problèmes que d'autres sports. Après, avec la vitesse, effectivement, c'est ce que vous voyez pas arriver qui peut être dangereux ou des blessures arrivent. Mais voilà. Les blessures qui sont souvent, c'est aussi avec le palais, avec les crosses qui peuvent arriver au visage. Et moi,
T'es
je
marqué.
suis bon marqué, mais ces blessures-là, mais les autres, c'est pas plus que les autres sports. Et il faut jouer avec tout ça, effectivement. Il y a bien évidemment dans les duels, comme tout dans les sports un peu où il y a du physique, un peu de ça en joue avec de l'intimidation, ça fait partie aussi de nos sports. Ça fait partie aussi du spectacle autour, notamment beaucoup aux États-Unis, ils adorent ça, ils sont fous de ça, ça fait partie de leur show un peu à l'américaine là-bas, quoi.
Alors, et ben justement, toi, quand tu étais petit, c'était quoi ton ambition? Parce que j'ai vu que tu as été, t'es peut-être le plus jeune à avoir signé un contrat pro. Tu étais à Megève, hein, je crois que c'est ça, hyper jeune, à 17 ans, 16-17 ans, un truc comme ça. Et assez vite, enfin, j'imagine avant déjà, c'est ton rêve, c'était d'aller en NHL?
Non, parce que nous, à
Non.
l'époque, là, on parle entre anciens, hein, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux et
Eh
toutes ces
oui.
choses-là. Donc, en fait, la NHL, pour moi, c'était un autre monde. On en entendait parler, mais on n'avait pas d'image, on n'avait rien de concret devant nous. Et non, pour moi, ça me paraissait inatteignable. Et puis, effectivement, c'est quand, à ce moment-là, donc moi, j'ai intégré très tôt, j'avais dû avoir le double surclassement pour jouer en senior à Megève à 16 ans. On avait été champion cette année-là. Et un des joueurs canadiens qui entraînait m'a dit, mais tu devrais tenter ta chance, t'as le potentiel pour tenter ta chance, va voir en junior. Et via la fédération, les échanges qu'ils ont avec surtout le Québec, j'avais réussi à avoir un essai là-bas. Et bah, cet essai est concluant parce qu'ils ont voulu me garder tout de suite. Et donc, c'est à partir de ce moment-là uniquement que quand j'ai baigné, on va dire, dans le pays du hockey au Canada, que je me suis dit que ça en devenait un objectif et je pourrais commencer à rêver de la NHL à ce moment-là. Mais c'est uniquement à partir de 16-17 ans quand j'ai été immergé dans ce pays de hockey, quoi.
Mais alors, comment ça se passe? Parce que t'es parti, tu dis, t'étais mineur, donc 16-17 ans, t'es parti tout seul au Canada, t'étais comment, dans une famille d'accueil, c'est le club qui te prend tout en charge, comment ça se passe? Et puis toi, comment tu l'as vécu? Parce que t'es tout petit, quoi, à ce moment-là, quand même.
Ouais, ben c'est ça. Alors, le premier camp que j'ai fait, ils voulaient me garder. Alors, ben moi, en fait, j'étais allé faire un stage. Et je m'étais pas préparé pour dire qu'ils allaient me garder tout de suite. Donc je suis rentré c'est l'année à Megève où on a eu le titre et je me dis bah voilà je fais une année je me prépare et pour aller là-bas c'est tout est organisé là-bas, les joueurs, ça s'appelle le junior major, sont tous dans des familles d'accueil, il y a très rare les gens qui sont les locaux. C'est déjà un système de draft qu'ils ont dès le plus jeune âge chez eux. Mmh. Et vont chercher, chaque équipe va chercher ses joueurs dans les différentes régions, dans les différents championnats en dessous. Donc, en fait, tout le monde est à la même enseigne. Tout le monde est mis en famille d'accueil. Ils aident les gens scolairement. Vous pouvez continuer vos études si vous le voulez. Et vous intégrez donc ce programme. Donc, je suis arrivé en famille d'accueil là-bas. On passe à un régime complètement différent par contre, où c'est plus complexe, c'est que vous passez, je sais pas, d'une trentaine de matchs en Europe à presque 80 matchs dans une année et le programme scolaire et les voyages en bus, c'est très dense et voilà, il faut s'habituer à ce rythme qui est élevé mais c'est très suivi et vous rentrez totalement dans un autre monde. Donc, il faut se préparer à ça, à la fois physiquement, bien évidemment, avec ce changement de rythme, mais aussi mentalement. Alors, c'est moins le cas maintenant, mais à mon époque, surtout beaucoup. Il y avait beaucoup, beaucoup d'intimidation.
Ah oui.
J'étais bien évidemment le petit Frenchie, le petit Frog. Et on essayait beaucoup d'intimider, et parce qu'à quelque part, on prenait le boulot des gars sur place, quoi. Donc, il fallait quand même être très solide, et tout ce qui actuellement on est en train de nettoyer dans notre société, dans notre sport, hein, tout ce qu'on parle d'initiation, toutes ces choses-là, ben moi je les ai vécues. Et si vous êtes pas prêt, si vous n'êtes pas solide mentalement, vous faites détruire facilement.
Mais c'est quel type d'intimidation ?
Y a à la fois les intimidations physiques sur la glace.
Oui.
C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir. Alors, quand je suis arrivé, ça marchait bien, plutôt bien pour moi. Et je marquais beaucoup de points, de buts, d'assists et tout ça. Et donc, on était une ligne notre ligne marchait bien. Et je me souviens qu'à un match, un coach adverse, début du match, nous n'avions pas fait trop attention les joueurs. Ils avaient envoyé ce qu'ils appelaient une ligne de goons. On appelait les goons à l'époque. Donc, c'était des joueurs très physiques qui se battaient. Et en fait, même pas l'arbitre avait posé le puck que les gens avaient droppé les gants en face de nous et nous avaient forcé à battre pour nous sortir du match. Et c'est ce genre d'intimidation physique qui pouvait avoir lieu. Et puis, des intimidations, bien évidemment, verbales sur les adversaires par rapport au fait que j'étais français pour eux prendre leur place, pour essayer de nous intimider, qu'on, entre guillemets, nous, avoir une crainte. Donc, il faut être prêt à ça. Puis après, bon, les initiations, ça, c'est des choses. Heureusement que ça se nettoie avec. C'était allé à notre époque. C'était le, entre guillemets, c'était du classique pour tout le monde.
Mais c'était aller habiller d'une manière, faire des.
Ouais, non, mais il y avait même, on touchait même à votre corps. Non, non, c'était
Ah
des choses
ouais.
assez hard quand même.
Ah ouais.
C'était des choses qui aujourd'hui seraient du pénal, qui sortent maintenant. Voilà. Et puis même les comportements de coach, hein, y en a maintenant au Quai Canada qui ont été expulsés, qui ont été suspendus. Mais moi, j'ai vécu dans cette période-là. Donc, non, c'est pour ça, et vous êtes loin de votre famille, vous êtes tout seul. Donc, il faut être assez solide pour endurer tout ça. Voilà, moi, c'est mon rêve et ma passion qui ont fait que j'étais dans un milieu où là, mon sport était le sport national, était le sport roi et je vivais là-dedans. Donc, moi, j'étais dans un plein rêve. Donc,
Ouais, mais
j'ai.
ça aurait pu te détruire aussi, quoi. Et
Oui, effectivement,
ça en a
mais.
peut-être détruit, d'ailleurs.
Effectivement,
D'autres.
c'est clair que maintenant, on en parle beaucoup, et tant mieux, et que ça se nettoie, c'est une bonne chose. Mais effectivement, je me posais les questions ces derniers temps. Je dis, mais finalement, ça m'a jamais perturbé, mais ça aurait pu effectivement me détruire ou annuler mon rêve et voilà. Écoute, à l'époque, c'était la norme et c'était normalisé. Malheureusement, c'était normalisé, mais c'était comme ça. Et voilà. Mais je pense aussi à quelque part. Alors c'est dur de dire ça parce que tu veux jamais subir ça, mais ça te forge un mental, ça te forge un caractère. Donc, quelque part, ça m'a peut-être aidé aussi de forger un mental, voilà.
Et donc, après cette expérience, tu reviens quand même en France, puisque tu vas jouer à Grenoble, c'est ça?
Ben, en fait, après, j'ai été repéré par les Blues de
Oui,
Saint-Louis,
Saint-Louis. Ah oui, c'est Saint-Louis. Après, tu vas en Suisse.
pendant que j'étais au junior, et qui, donc, je vais faire deux camps d'entraînement avec eux, et c'est là où ils m'ont signé mon premier contrat. Et après ces 2 années, donc moi j'avais fini mon junior, ils m'ont envoyé dans les ligues mineures. J'étais pas prêt pour faire la NHL tout de suite, donc ils m'ont envoyé dans les ligues mineures. Alors ce que je viens de te dire sur les intimidations, sur les choses, là c'était fois
Ah
trois ou
oui.
quatre.
Ah oui.
Le niveau était plus difficile et là ça commençait à être compliqué pour moi. Et donc j'ai demandé. Parce qu'il y avait aussi l'attractivité de faire les Jeux de Calgary, de rentrer en France pour essayer de faire l'équipe de France. Et donc, j'ai demandé à rentrer et je suis rentré comme ça en France pour essayer de faire les Jeux de 88.
Parce qu'à ce moment-là, quand tu
Donc.
es là-bas, quand tu dis ils m'ont signé au niveau du contrat pro, tu as un agent pour ça,
Ouais.
t'as quand même un agent, mais t'es
Ouais,
pas
ouais.
accompagné par
Ouais,
d'autres personnes.
dans ce monde là-bas de
Oui.
business, tu es obligé de faire un agent. Donc,
Oui.
en fait, les agents viennent vers toi une fois que ils t'abordent dès que tu es en junior. Donc, moi, quand je marchais bien en junior et que j'ai été repéré, les agents viennent aussi vers toi et puis te demandent de travailler avec. Donc, voilà, tu en choisis un. Puis après, c'est lui qui s'occupe un petit peu de tout.
Mais pour
Et
toi, c'était pas facile parce que quelque part aujourd'hui ou quelques années plus tard, comme toi, tu as été le premier un peu le premier français là-bas, certains pourraient te poser des questions et s'inspirer de toi et tandis que toi, tu étais complètement le premier quoi. Donc c'était pas facile de faire aussi le choix de l'agent, de prendre les bonnes décisions quoi et d'être préparé à tout ça finalement.
Ben non, c'est ça. Si t'es pas prêt, en fait, et tu fais tes expériences et moi j'ai changé d'agent après, donc j'en ai pris un et puis voilà, il a fait les premiers choix. Puis après, j'ai rechangé après. Voilà, c'est les expériences de vie quand tu connais pas tout ce
Oui.
milieu-là. Et puis tout ce milieu est vraiment le sport nord-américain est vraiment géré par le business. Donc c'est vraiment beaucoup de décisions de business et il faut comprendre tous ces codes-là en fait. Donc voilà, tu fais ton expérience petit à petit. Mais quand je suis rentré en Europe, donc du coup quand je rentre pour faire l'équipe de France, et après je suis resté 4 ans en France. Et c'est grâce aux Jeux d'Albertville que Saint-Louis avait toujours mes droits. J'étais pas sous contrat avec eux, mais il avait toujours mes droits et que le manager a vu les matchs et qui a souhaité à ce moment-là, dans le timing, me refaire revenir et j'ai re-signé. Mais ces 4 ans-là m'ont servi aussi pour de savoir que quand j'allais retourner, j'étais prêt. On parlait tout à l'heure du mental, j'étais prêt mentalement. Alors, mon jeu a évolué, c'était une chose. Je savais ce qu'il fallait que je fasse pour réussir, mais voilà, j'étais prêt mentalement ce coup-ci. Peut-être que ma première expérience, tout de suite après le junior, j'étais pas tout à fait prêt mentalement. Et après, quand on a fait appel à moi la deuxième fois, j'étais prêt mentalement.
Quand tu dis que tu étais prêt mentalement, est-ce que tu as envisagé justement de travailler avec un préparateur mental ou autre, ou c'est autodidacte?
À l'époque, non.
Ouais, à l'époque, ça ne se faisait pas.
À l'époque, tu n'en parlais pas encore.
Ouais.
Non, c'était pas encore connu. Tu vois, c'était l'époque où on commençait la préparation physique à en parler, donc le mental c'était encore loin. Voilà. Mais c'était moi, quoi. Voilà, je m'étais endurci, je m'étais préparé à ça. Je savais où j'allais mettre les pieds aussi. Je savais les codes. Je savais comment ça allait fonctionner. Donc voilà, la première expérience, comme tu dis, c'est une découverte totale. Mmh. Tu savais pas, tu découvres, t'es surpris, t'es choqué, même des fois. Et voilà, mais la deuxième expérience, tu sais tout ça, tu sais à quoi t'attendre, donc tu t'es prêt à affronter tout ça, et voilà.
Et quand tu vas là-bas, tu y es vraiment avec d'autres ambitions, pour le coup. Quand tu y retournes, là, vraiment, tu dis, je suis en NHL et je vais, entre guillemets, m'imposer en NHL. Enfin, en tout cas, c'était ton objectif.
Ouais, c'est ça, parce que là, je sors des Jeux d'Albertville et le club, le manager me signe un contrat pour que j'aille en NHL, il y a des contrats des fois à deux volets et des contrats à un volet, et là c'était un contrat pour la NHL, donc pour m'imposer là, et puis parce qu'ils avaient un besoin de joueurs à ce moment-là. C'est toujours une histoire de timing en NHL, quand on parle de business aussi, de timing et d'opportunité. Et à ce moment-là, c'est en février, ils avaient besoin d'un type de joueur comme moi, et donc ils ont signé ce contrat. Donc quand j'y allais, c'était vraiment pour aller à NHL et me faire la place en NHL et pas ailleurs.
Et là, les matchs qui t'ont marqué, je sais pas, tes premiers buts, c'est des souvenirs forts, quoi. Enfin, c'était aussi quelque part un accomplissement dans ta carrière.
Oui, parce que là, en fait, donc. Moi, j'ai vécu le junior, donc j'ai vécu dans le monde à la télé, et j'avais la chance d'avoir une famille d'accueil qui avait des billets de saison au Canadien de Montréal, donc je pouvais aller voir de temps en temps. Donc là, tu vois toutes les stars, et là, tu commences à rêver. Et quand je reviens, je suis face à eux sur la glace en vrai. Donc à l'époque, c'était Wayne Gretzky, les grosses stars, c'était Mario Lemieux. C'était des grands noms et des gars qu'effectivement tu te dis je suis face à eux, je suis contre eux, mais tout en essayant de pas trop les regarder quand même. il faut y aller, il faut envoyer, parce que c'est vraiment la compétition permanente. Oui. J'étais remis en question en permanence. On parle beaucoup de communication aujourd'hui, et à l'époque il y en avait pas. En fait, quand t'arrivais dans le vestiaire, c'est là où t'apprenais si tu jouais ou pas. En grosso modo, si t'avais ton maillot qui était là, tu jouais. Si t'avais pas ton maillot, tu savais que tu jouais pas. Donc, tu savais que c'était un peu remis en question. Donc,
C'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Et même on parle un peu des sports d'équipe, alors, sur la glace, ça se fait forcément parce que vous avez tous le même objectif, c'est de gagner, faire gagner l'équipe. Mais par contre, il y avait une vraie compétition à l'intérieur de l'équipe, quoi.
Ouais. En interne, c'est pour ça qu'ils te le font sentir. Et t'arrives, et encore une fois, t'es le frog, hein. Et puis moi, il y a eu une incompréhension à un petit moment donné, parce qu'ils ont toujours cru que j'étais du Québec. Parce que pour eux, en fait, jamais ils pensaient qu'un Français pourrait arriver là.
Ah oui.
Donc tu parlais français, ils pensaient que, et j'avais joué mon junior au Québec. Donc, ils pensaient que j'étais un Québécois. Et quand j'ai dit non, je suis non, français de France, et là, ils étaient sur le cul. Et il y avait la surprise, mais bien évidemment, il y a l'intimidation, parce que je venais leur piquer le boulot. Et c'était à l'époque où, voilà, les Européens ont commencé à arriver. C'est pas normalisé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait partie de la normalité. Et il y a tellement de joueurs européens de différents pays que c'est plus un problème maintenant.
Mais alors, dans ce que tu me dis, ça veut dire qu'à côté, il n'y a pas une, une convivialité d'équipe, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas un moment où vous vous retrouvez, vous allez tous manger, boire un coup, peut-être juste après la victoire, peut-être. Enfin, je sais pas. Vu ce que tu me dis, ça m'a l'air quand même assez. Ou quand même, où t'as quand même créé des liens d'amitié dans l'équipe?
Non, non, si tu l'as forcément, parce que de toute
Oui.
façon, le programme fait que des fois, on partait une semaine, 10 jours sur la route.
Ah oui.
Donc, tu es 10 jours avec ton équipe à l'hôtel, tu prends les repas ensemble, tu l'as forcément, et bien évidemment, t'as les soirées d'équipe, t'as toutes ces choses-là. Donc, ça se perpétue, mais toujours avec cette notion quand même de t'as ta place qui est en jeu,
De
t'as ta place dans
challenger.
l'équipe alors c'est pas le cas pour les stars, hein, ceux qui sont assurés de leur place, ça se passe pas comme ça, mais voilà, pour tous ceux qui ont leur place en jeu, c'est vraiment. Et puis c'est t'as aussi le fait que tu peux être échangé à n'importe quel moment, qui fait que voilà, c'est un monde de business, donc bon, t'as toujours un peu des retenues. Alors oui. Moi, je trouve, on tisse toujours des liens, et puis je trouve que ce qui est incroyable dans le milieu du sport collectif, je trouve, et dans notre sport particulièrement, tous les gens nous voient et se battent sur la glace en
Oui.
permanence. Mais je trouve qu'il y a une vraie convivialité derrière. Et on crée des liens, mais on crée c'est une vraie famille, le hockey. Et moi, je l'ai surtout vécu, bon, sur un triste événement pour nous, quand un de mes fils est tombé malade au Canada, et j'avais pas
Ouais.
vu des gens depuis 10 ans, ou même plus, et j'ai reçu des messages de tous ces gens-là. Ils étaient tous affectés, et tout le monde était prêt à aider, quoi que ce soit, parce qu'ils étaient de la région, et qu'ils avaient besoin de ci et ça. Et c'est là où, c'est après, finalement, les matchs, ou c'est après ta carrière, quand tu rencontres les gens, que tu vois que voilà, ça crée quelque chose, ce sport collectif, et entre nous, et ça, je trouve que ça amène autre chose que le sport, quoi.
Mais tu as conscience quand même que tu as marqué l'histoire du hockey international et français, parce que comme tu dis, le premier hockeyeur français, donc que certains découvraient en NHL, c'est quand même fou, quoi.
Ouais,
Non, mais
moi,
dans ta carrière, tu t'en rends pas compte, puisque c'est ta
Non, c'est
carrière,
ça.
mais c'est après,
C'est
quoi.
ça, en fait, que quand tu es dans ta carrière, tu es toujours dans le truc à fond.
Oui.
Et t'as même pas le temps d'apprécier les moments, en fait. Puis d'autant plus là-bas, puisque comme je t'ai dit, c'est un planning de 82 matchs. Et là, quand tu es en NHL, alors c'est les avions, et tu transfères d'est en ouest, tu tapes les décalages, tu tapes les voyages quand même, hein. C'est tellement grand. Et que t'es à fond en permanence, et du coup, effectivement, t'as pas le temps d'apprécier. C'est plus maintenant, avec le recul, que bah, tu dis oui, finalement, j'ai quand même fait quelque chose de pas
Oui.
mal, et j'ai vécu ça. Et donc, ça reste à la fois des bons souvenirs, et pour moi, une petite pointe d'amertume, parce que je pense que j'aurais pu faire mieux, ou j'aurais pu rester plus longtemps, en tout cas. Et surtout quand je vois le type de joueur maintenant qui évolue en NHL, c'est plus dans mon style de joueur. Moi, j'étais pas un joueur très grand, plutôt rapide et un peu technique, et à l'époque, on était encore dans les grands joueurs
Physique.
physiques qu'ils avaient besoin au Canada. Et moi, je suis tombé, sur mon dernier coach, où si je faisais pas 1,85 m, t'avais pas trop, et l'aventure s'est finie là. Et du coup, voilà, je pense que j'aurais pu faire une plus longue carrière, mais ça fait partie aussi de ce sport business qu'on parlait tout à l'heure, de la gestion de nord-américaine, voilà.
Et à ce moment-là, la vie de famille, parce que du coup, tu as rencontré Hélène aussi à ce moment-là. Vous avez votre premier enfant, ça ne va pas être simple non plus. Et puis l'incertitude, parce que comme tu dis, tu peux être échangé à tout moment, donc tu t'installes, tu peux repartir. Alors pour toi, ça devait être quand même, ça a dû t'apporter énormément pour l'équilibre personnel, mais pas simple à vivre forcément, même si l'aventure est incroyable.
Non, ça c'est indéniable. Si bon, j'ai rencontré Hélène, et puis à l'époque d'Albertville, elle était enceinte, et puis elle avait eu des problèmes physiques qui l'a fait qu'elle avait dû mettre sa carrière de ski de côté. Et Et elle est enceinte et elle doit accoucher. Et moi, je dois partir.
Oui.
Et la NHL, ben voilà, il faut que tu partes et tu y ailles tout de suite. Sauf qu'ils ont été très classe là-dessus. Ils m'ont permis que, au moment de l'accouchement, ils m'ont payé l'avion pour que je revienne, je puisse assister. Je suis arrivé juste à temps. Vivre l'accouchement, rentrer 3 jours et puis repartir. Et puis après, effectivement, Hélène a pu me rejoindre avec notre premier enfant et on a commencé l'aventure là-bas aux États-Unis. Mais comme j'ai dit, c'est un plus pour que tu t'es accompagné, que tu as ta famille pour vivre toutes ces choses-là de NHL, ce rythme de vie, c'est l'intimisation. Si t'es pas accompagné, je pense que c'est plus compliqué. Je vois, je sais que j'échange. On a un joueur qui était récemment NHL, qui est rentré une année en Europe. Il s'est retrouvé un petit peu seul. Et quand tu es seul dans ce système-là, c'est dur. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Et c'était très important à ce moment-là d'être accompagné. Et ça fait partie de l'aventure, du succès de l'aventure.
C'est clair. Et après, donc, comme tu dis, l'aventure NHL se termine un peu à cause de ce coach et puis ce système de jeu qui était un petit peu différent, enfin qui cherchait des gabarits essentiellement. Tu reviens avec aussi un succès incroyable en Suisse et puis j'ai lu qu'en Allemagne t'as vécu un truc de fou à Mannheim, je crois, avec un succès populaire. Toute la ville vivait hockey et ça a été fabuleux, je crois.
Ouais, c'était génial. Tu vois les pensées que t'as des fois quand t'es jeune, tu dirais j'irai jamais en Allemagne et autres. Et c'est dans les plus belles années de hockey que j'ai vécu là-bas. Donc quand je rentre de NHL, j'avais besoin d'un challenge quand même en Europe qui soit un peu plus relevé que la France. Et j'ai eu la chance de vivre une expérience d'abord en Suisse, puis après 3 années en Allemagne où j'ai débarqué dans une ville qui vivait le hockey, c'était une ville de hockey. L'engouement était incroyable. Les gens venaient parce qu'en fait c'était une patinoire qui était un petit peu ouverte autour et les gens venaient avec leurs escabeaux pour se faire des places pour venir au match. On arrive toujours 2 heures avant en général au match et les gens donc toutes les places debout était déjà pleine et le monde chantait déjà 2 heures avant, c'était déjà archi plein, toutes les places debout. Ouais, c'était un truc hallucinant et on a eu cette chance de faire un titre tout de suite à ma première année. On en a enchaîné 2 autres après, 3 de suite, mais le premier était marquant parce que ça faisait plus de 20 ans qu'ils avaient rien eu. Et donc, ça a été un truc de fou, avec une parade après au milieu de la ville. On a mis des heures à traverser la rue piétonne en décapotable avec la coupe. Et voilà, c'était un engouement incroyable. Et c'était une super aventure que j'ai vécue là-bas. Et après, je suis retourné en Suisse, dans des conditions... des bonnes conditions pour continuer ma carrière, pour évoluer dans un pays où aussi le hockey est une des premières places l'hiver avec le ski.
Ouais, mais ce qui est fou, c'est que je regardais ta carrière pro, en fait, ça a été 24 ans. C'est énorme, en fait. C'est fou, quoi.
Ouais, c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Comme je t'ai dit, j'ai à 16 ans, j'ai déjà eu des surclassements pour évoluer avec les pros, parti très tôt. Je pense même que j'aurais pu faire 1 ou 2 années de plus. J'ai arrêté peut-être un petit peu trop tôt. Après, quand t'arrêtes, tu vois, des moments donnés, ton corps t'envoie des signaux physiques. Ça, c'est où tu commences à avoir des blessures, où ça commence à être dur.
T'as eu quoi comme blessure, toi, en fait?
Mais j'ai pas eu des grosses blessures.
Oui, c'est ça, t'as pas eu des arrêts complets, ouais.
Non. J'ai eu des ligaments internes, mais jamais d'intervention sur les 2 genoux. J'ai eu des épaules, mais c'est des capsules, mais pas d'intervention, pas de grosses opérations. Beaucoup de blessures usuelles, mais des petites blessures qui t'arrêtent un petit peu, où tu te dis, ben voilà, tu te reprends à chaque fois. Il faut savoir se maintenir, bien évidemment. Mais en fait, quand quand tu arrêtes, au moment où tu arrêtes, on dit tous, hein, c'est une petite mort et c'est vraiment le cas. Et t'as la flamme quand même qui est à l'intérieur. Tant que t'as pas passé ce cap-là, voilà. Et du coup, moi, j'avais commencé tout de suite mon boulot d'entraîneur dans le mouvement junior, donc je faisais, mais je voyais les gars s'entraîner qui étaient juste à côté. Et puis ça te démangeait. Et puis là, le coach dit, mais si tu veux, tu viens t'entraîner. Puis là, tu dis, allez, tu y vas une ou deux fois. Puis là, c'est reparti finalement. Puis tu dis, bah, maintenant, la flamme, elle est pas encore c'est éteinte. Et voilà, mais c'est un tout. Après, moi, j'ai jamais fait les choses à moitié. Et je voulais pas faire des saisons en disant, c'est pas juste la saison d'hiver. Tu dois te préparer. Et t'as toute la préparation estivale et ça c'est aussi lourd, c'est aussi il faut que tu peux pas ne pas la faire et faire les choses à moitié, donc voilà.
Moi je dis toujours, s'il y avait eu que les compétitions, j'aurais continué encore une saison, mais faire toute la saison de préparation, les entraînements, c'est finalement le plus dur, quoi. Ce qu'on ne voit pas, ce dont on parle pas finalement, mais c'est tellement demandant mentalement aussi. Surtout moi c'était le mental qui était compliqué.
C'est ça, c'est un tout, en fait. C'est ce que effectivement, comme tu dis, c'est ce que les gens voient pas, mais c'est toute une préparation et c'est des efforts en permanence à faire et que tu fais subir aussi à ton corps. Et, bah là, maintenant, aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, on a du recul. Et, moi, je vois bien, là, on souffre de partout, quoi. on faisait un petit peu, les kamikazes, surtout moi quand on jouait, c'est-à-dire que j'ai joué avec des blessures, c'était débile finalement, mais tu le payes maintenant, quoi, et tu te rends compte maintenant que c'est hard et t'as mal de partout, hein. Voilà, tes cartilages ont été abîmés par toute cette carrière de haut niveau.
Ouais, mais bon, tu sais, t'as pas des potes autour de toi qui n'ont pas fait du haut niveau, qui ont aussi mal de partout. Nous, on sait pourquoi on a mal de partout, en fait.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà.
Ok. Et du coup, oui, tout à l'heure, tu parlais aussi de la médiatisation du hockey. Est-ce que c'est pas frustrant que le hockey soit toujours aussi peu médiatisé en France, comme tu le disais? Alors, il y a des problèmes de caméra, mais quand même, quoi. Enfin, il y a. Alors. Peut-être qu'il a manqué dans le palmarès français des succès, une médaille olympique ou une médaille mondiale. Mais tu dis quand même, les clubs continuent à tourner. On a des champions qui vont régulièrement en NHL. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas plus?
Ben c'est clair que c'est une frustration, mais comme tu l'as dit, il faut aussi avoir des résultats à un moment donné. Moi, c'est une des frustrations de ma carrière de sportif. Je suis dans un collectif, je suis français, on n'a jamais prétendu à faire les médailles et pour l'instant, c'est pas prêt de changer. Mm-hmm. T'as une hiérarchie dans notre sport qui est figée depuis, je sais pas si on peut aller 40 ans, 50 ans, j'en sais rien, mais c'est toujours les mêmes nations, c'est comme ça. Donc moi, c'est une frustration en tant que sportif parce que je suis quelqu'un de gagneur et j'aurais voulu vivre ça. C'est compétition pour gagner. Et puis après, effectivement, tu peux être frustré de... Alors moi, c'était drôle, parce que justement, quand j'étais en NHL, j'étais mort de rire parce que mes coéquipiers me disaient, mais t'es comme Platini, t'es comme Noah, tu dois être le king en France et tout ça. Je leur disais, mais là, vous trompez complètement. Moi, je suis un inconnu en France. Il pensait que parce que voilà, j'ai fait le premier français qui était en NHL, que pour eux c'était une star, puisque bien évidemment c'est le sport roi là-bas. Donc c'était très drôle à l'époque. Mais ouais, c'est une frustration pour notre sport. C'est difficile à en sortir. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire nous sur nos infrastructures. On doit avoir des patinoires qui accueillent mieux, en plus grand nombre. Pour que si on accueille les télés, ça soit mieux filmé aussi. Et puis, effectivement, avoir des résultats. Mais là encore, au jour d'aujourd'hui, pour nous, ça passe déjà de refaire les Jeux, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on les a pas faits.
Oui.
Mais après ça, ça restera compliqué. Moi, j'ai plus une frustration en France de la surmédiatisation de certains sports par rapport à. Il y a d'autres sports que le hockey qui marchent très fort et qui, eux, sont médaillables et qu'on ne parle pas beaucoup non plus.
Oui.
Et moi, je suis plus. Ça a pour moi du mal à passer parce que ces sportifs-là, ils font énormément d'efforts et ils ont des résultats, ils ne sont pas médiatisés
Tu
parce
penses à quel
que.
sport, par exemple?
Même le hand, ça
Oui.
commence, mais le hand et le basket sont pas des sports collectifs qui ont la médiatisation qu'ils méritaient. Le volley ont été aussi
Oui.
champions. Et puis tous les sports individuels on en parle, mais pas assez. Toi, tu es dans le ski aussi, j'estime qu'on n'est pas assez
Oui, puis c'est pas des
valorisé,
sports
nos
pro en plus.
champions.
Il y a beaucoup de champions qui ne vivent pas de leur sport en France.
Le biathlon, on est des médailles, mais ça commence, je trouve que ça commence maintenant, et tant mieux pour eux, mais je veux dire, si on met que rien que 5-6 ans en arrière, on n'en parlait pas autant que ça, et c'était incroyable avec les résultats qu'on avait. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sports comme ça. Le judo, on en parle aussi, mais on en parle quand pour les Jeux? On en parle parce qu'il y a Teddy Riner, et c'est lui par lui, mais sinon, on n'en parle pas non plus tant que ça. Voilà, avoir des plancards tous les jours sur le foot, ça va à un moment, mais il y a tellement de sports. Et je trouve qu'ils sont d'autant plus méritants parce que non seulement ils n'ont pas la médiatisation, mais ils n'ont pas les moyens
Oui,
de
bien
ces
sûr.
sports-là. Et en fait, ces sportifs-là ont un succès avec quasiment rien, quoi. Parce que c'est plutôt la tendance de nous enlever des moyens en ce moment partout. Et on arrive, et je trouve c'est un peu l'anomalie en France d'avoir du succès malgré les moyens qui sont pas trop mis dans le sport, malgré qu'on soit pas un pays de sport. Faut le dire clairement les choses. Tout le monde dit mais comment vous dites? Ben non. Et d'ailleurs ils en ont parlé l'autre jour dans l'émission où Riner est passé là sur France. Mais c'est la réalité. On n'est pas un pays de sport et je trouve qu'il y a les sportifs qui réussissent. Sont d'autant plus méritants avec le peu de moyens qu'on nous donne, quoi.
Ouais,
On leur donne.
et puis comme je disais, ils sont pas pros quoi. Donc en plus, il y en a qui en vivent pas et qui quand ils
C'est
arrêtent leur
ça.
carrière, ils repartent de rien avec rien. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui arrêtent leur carrière parce qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça quoi.
Exactement. Et je pense que le grand public n'a pas conscience de ça. La réaction l'autre jour des gens sur le plateau, mais comment ça se fait? Ben oui, c'est la réalité. Et voilà. Et je trouve que, voilà, on sait tous, la carrière de sport est pas très longue non plus, hein. Je trouve que c'est dommage, quoi. C'est dommage de pas donner plus de moyens pour ces gens-là.
Ouais, c'est clair. Alors, je voulais revenir à un truc dont tu as parlé tout à l'heure. Vos deux garçons, ils font du hockey. Et alors, ce matin, comme par hasard, je lisais un article. On est le 1er mars, donc c'est pas
Oui.
sans t'en rappeler des. Voilà. Et il y a 10 ans, justement, Tim, ton fils, a attrapé une méningite. Et je lisais tout l'article là, sur le Blic, là. Et ouah, ça a été une période incroyable, quoi. Hein. Et puis, enfin, tout ce qu'il a récupéré, enfin, je sais pas s'il y a de mots, mais c'est phénoménal. C'est extraordinaire.
Ouais, j'ai plus de mal à en parler maintenant. Finalement, les émotions sont plus fortes maintenant que quand je l'ai vécu sur le moment. C'est marrant. Alors, moi, je dis toujours, ma carrière de sportif de haut niveau m'a aidé à traverser cette période-là. Mais voilà, clairement, des fois, on utilise le mot miracle, voilà, mais c'en est un. Honnêtement, il n'y a pas de. Médicalement et autres, il y a zéro explication. Et ce n'est que
Oui, parce qu'il
qui
a fait
s'en.
du coma, enfin méningite.
Oui.
Déjà, heureusement qu'il a un partenaire qui est avec lui dans la chambre, qui l'accompagne parce qu'il voit qu'il est pas mal, qu'il est pas bien. Et il est plongé assez vite dans le coma, intubé. Et quand il l'endorme, vous savez pas si vous allez le revoir, quoi. En fait, c'est ça qui est fou, quoi. Et 3 semaines
Non,
après, il se réveille et il repart. Enfin, incroyable.
Non, c'est ouais, il y a des moments très critiques. Alors nous, on est ici en Europe, on a un appel un soir et puis on réalise même pas quand le gars nous dit mais il a une méningite. Bon ouais, mais tu sais pas. Alors oui, tu regardes vite, tu te renseignes, tu dis ouais, ça peut être grave. Mais c'est que quand tu arrives dans la chambre, que tu le vois intubé, qu'inanimé, tu dis là, voilà. Et puis, effectivement, il y a des moments très critiques où un soir, le médecin dit, écoutez, là, on a tout essayé. Il a des poches de glace partout sur lui. Et la fièvre continue de monter. Il est à plus de 42. Et quand je te dis des poches de glace, c'est-à-dire une couverture de glace sous lui, sous les aisselles, partout sur le corps. Et le médecin te dit, ben voilà, là, on essaie tout. Si ça descend pas, je sais pas, quoi. Enfin, en gros, je sais pas s'il passe la nuit. Bon, voilà. Et puis après, avant d'essayer un premier réveil, ils te disent, ben, il peut y avoir n'importe quelle séquelle. Ça peut aller de tout, hein. La vue, la parole, n'importe. Pas marcher, enfin voilà, tous les scénarios sont. Et lui, il se réveille et puis il a rien et tout marche quoi. Donc et puis au
Et il
jour
redevient joueur de
d'aujourd'hui,
hockey, quoi.
il continue son rêve
Incroyable.
et il s'en fait un objectif personnel de dire je veux retourner au camp d'entraînement de Montréal puisqu'il avait été drafté
Ah
par
oui.
Montréal là cet été-là et tout le monde lui dit mais c'est un truc de fou, quoi. C'est
Oui.
quasi impossible, mais il voulait rien entendre et il s'était fait cet objectif-là, et voilà. Donc, ouais, tu peux pas dire autre chose que c'est un miracle d'être en sortie indemne, et qu'il vit et il joue au hockey normalement, professionnellement. C'est hallucinant, quoi.
Et il en équipe de France, donc. Et tu
Oui,
l'entraînes.
et il en est une de France, effectivement, et je l'ai avec moi en équipe de France.
Alors, comment ce rapport, sans parler du miraculé, mais de l'athlète et avec le papa, enfin, et ton deuxième fils aussi, il est en équipe de France, les deux, hein.
Oui, bah, le deuxième, il a été intégré il y a 2 ans, les deuxièmes années, donc lui, c'est plus récent. C'est clair que c'est pas évident, hein, mais j'essaie de pas les gérer moi
Oui.
sur la partie hockey sportif. J'essaie de donner ça à mes assistants. Mais après, quand tu dois faire des choix, c'est que les choix reviennent quand même sur toi. Donc voilà. J'essaie d'être le plus juste possible. On est toujours un peu plus dur avec nos
Oui, c'est ça,
enfants.
j'ai dit, tu as tendance à être
Donc
plus dur, plus exigeant, peut-être.
On est plus dur, donc ça a été plus, c'était dans leur carrière, c'était plus dur pour eux. Moi maintenant, parce que maintenant c'est des adultes, mais quand ils étaient jeunes, c'est effectivement plus dur pour eux. T'as les remarques de l'environnement, t'as les remarques des coéquipiers, et tu dois quasi être irréprochable quoi, pour eux, puisque c'est
Ah
ton
oui,
père
c'est
qui
sûr.
coach. Donc c'est sûr que c'est compliqué pour eux. Et puis effectivement, il faut voilà, t'es obligé d'être bon pour éviter les commentaires, mais ça c'est une autre partie. C'est plus eux pour eux que c'est compliqué. Moi c'est juste c'est au moment des choix. Et puis après, comme je te dis, on a mis en place c'est plus les assistants qui les gèrent. Donc voilà. Et je pense que c'est plus pour eux, en interne dans l'équipe et
Oui.
via le monde extérieur que tu peux pas éviter les commentaires et que ça peut être plus compliqué, quoi.
Oui. Je vous souhaite la même réussite que la famille Tilly en volée, puisque
Ouais.
ça a été le même
Ouais.
scénario. Enfin, je crois qu'il y avait que Kim, je crois, qui était
Ben, y en a que volleyeur, il y en a que
et
basketteur.
basketteur. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu le même parcours aussi. Hein,
Ouais,
c'est
ouais.
la même chose. Avec le titre olympique au bout. Alors, je dis ça. Voilà.
Ben ouais. Eux, ils ont la chance
Oui.
de faire pour les titres.
Ouais. Et justement, tu parlais donc de ce rôle d'entraîneur. Toi, comment tu es dans le vestiaire? Tu as un discours d'avant-match, tu es très actif là-dessus. Et toi, comment tu le vivais quand tu étais athlète d'ailleurs, pour le coup?
Ben, c'est clair que nous, on est entre guillemets éduqués avec des valeurs, les valeurs du respect, du travail et de l'amour du maillot. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ces valeurs-là, tu veux les transmettre, mais la réception est plus la même. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus la même. On les appelle un peu les générations zap. Ça zappe en permanence avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Et en fait, les infos, c'est au jour le jour et ils perdent, ils gagnent, ils zappent tout. Je trouve que c'est plus compliqué. Je trouve que au niveau caractère, c'est plus difficile. Et donc, tu dois changer toi. Et il faut essayer de trouver d'autres choses, d'autres leviers pour les motiver, pour les emmener avec toi. La valeur du maillot marche moins bien maintenant.
Oui.
Voilà. Et puis, oui, ils veulent tous plus maintenant. Ils veulent tout de suite avant d'avoir prouvé. Donc, c'est différent. Et en fait, si toi, tu continues dans ce mode-là, tu vas frapper un mur et
Tu
ça
les touches
marchera
pas.
pas.
Tu les touches pas, ouais.
Donc on s'est un peu remis tout en question là-dessus. On essaye de, voilà, il faut beaucoup échanger avec eux. Il faut essayer de qu'ils aient, entre guillemets, qu'ils sentent que c'est eux qui fassent marcher la machine, leur donner des pouvoirs dans le groupe. Et voilà, nous on fonctionne avec des leaders de vie de groupe et des leaders techniques.
D'accord.
Donc nous
Intéressant.
on nomme à la fois le staff choisi mais les joueurs aussi. On fait moitié moitié et il y a des leaders techniques, il y a des leaders de vie de groupe et on essaie d'être voilà en relation en permanence pour que voilà dès qu'il y a des petites alertes à droite à gauche que ce soit dans la vie de groupe, que ce soit dans le collectif, dans l'esprit d'équipe ou sur nos identités de jeu, qu'il y ait des échanges permanents là-dedans.
Ah, c'est plus du tout ce que tu as vécu avec le coach,
J'ai plus
l'impérator,
trop.
quoi. L'impérator qui décide au dernier moment, comme tu dis, qui des fois
Exactement.
tu apprends en voyant que juste dans le vestiaire que tu vas jouer ou pas. Là, il y a vraiment plus de partage et que chacun doit s'approprier une vraie place, quoi. Mais pas évident à gérer tout ça non plus, chacun doit trouver sa place.
Ouais, en fait, si t'es que descendant en permanence, ça va pas le
Oui,
faire.
oui.
T'es obligé de le faire par moment. Hein.
Oui.
Il faut garder quand même ton leadership et ton truc. Et quand il y a des choses à dire, faut les dire. Mais tu ne peux pas être que descendant. Ça ne marche plus. Et voilà, on essaye de fonctionner un petit peu différemment. Voilà, c'est nous, comme je t'ai dit, c'est d'essayer de nous adapter plutôt aux générations d'aujourd'hui que eux s'adaptent à nous parce que ça marche pas, ça le fait pas. Et puis, ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et comme on disait tout à l'heure, bon, dans le sport maintenant, la partie physique est devenue énorme partout. Donc, si t'es pas au top physiquement, là, il faut aussi que tu aies un staff avec toi qui soit attaché à cette tâche, hein. Et après la partie physique, t'as maintenant, je pense, ce qui fait, pour moi, en tout cas, c'est ma vision, qui fait 80% de ta performance, c'est le mental, je sais pas.
Oui.
On en revient à chaque fois par là. Alors, où je trouve que nous, maintenant, on est, comment les jeunes vivent, je trouve que quand ils sont en difficulté, finalement, je trouve qu'ils sont désemparés. Ils ont plus de clés. Ils savent plus comment faire. Tu sais, ces histoires qu'on parlait de valeur, de respect, qui est moins comme notre génération à nous, avec leur mode de vie maintenant, quand ils sont en difficulté, je trouve vraiment face à moi des athlètes
Perdu,
sans réponse. Ils n'ont pas de clé.
ouais.
Et c'est là où le mental prend une grosse part de
Et
leur
comment tu
performance.
fonctionnes du coup? Il y a des préparateurs mentaux qui sont à
Ben,
l'affinée
c'est
ou?
là où moi j'ai des
Oui.
difficultés parce qu'on n'a pas les moyens
Ah oui.
de nous. Alors on avait initié des choses avec Yann Lemeur qui travaillait à l'INSEP à l'époque et il a travaillé beaucoup avec moi, avec le staff. Comme je te disais sur les histoires de messages, on voulait initier avec les joueurs et puis c'est difficile après financièrement ensuite. Donc il y en a beaucoup qui ont initié ça individuellement. Et moi, j'encourage tout le monde à le faire. Et bien évidemment, si on pouvait, on le ferait. Voilà,
Et toi, tu es en rapport avec les préparateurs mentaux des athlètes avec qui ils travaillent ou c'est chacun, enfin, ils travaillent de leur côté et puis tu dois quand même, enfin, parce que c'est pas évident non plus de
Non, nous, sur les individuels, on les laisse tranquilles. On est au courant, on a des échanges
Oui, c'est
avec
ça.
eux. Quand on envoie, on leur dit, je pense que ça serait bien. Mais tu sais, ça, c'est aussi des barrières à casser, hein.
Oui.
Spécialement dans le milieu du sport collectif masculin,
Oui.
ça, de dire t'as besoin d'un préparateur
T'es
mental,
faible.
ça passait pas très bien. Il faut, ça fait le côté psy là qui est pas très bien vécu. Mais voilà, ça commence à être accepté maintenant, mais c'était pas évident. T'as toujours le gars qui dit non, moi j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin.
Tu fort.
Et qui minimise ça et son mal-être en fait finalement, parce que le sportif a ce mal-être là et s'il n'est pas bien. Voilà, il faut casser tout ça et il faut que ça devienne. Donc nous, on est juste en relation avec le joueur, il dit oui, je suis suivi, on fait ça. Et puis nous, quand on a pu, on a essayé de travailler plus collectivement. Voilà, il y a des choses qui étaient très bien et très très intéressantes, spécialement dans le sport collectif. Tu vois, ça a permis d'initier du travail, par exemple sur des travails de vidéo. Quand tu te montres une vidéo à ton groupe, et ben en fait, on n'avait fait que un clip. Et notre préparateur qui était avec nous, accompagnait, et on a demandé aux 5 joueurs sur la glace qui étaient présents leur point de vue. Et tu te rends compte, c'était
Oui.
marrant, tu te rends compte que les 5 avaient une vision différente.
Oui.
Et c'est là où tu te dis, c'est là où c'est intéressant, tu te dis, ben, effectivement, c'est sur la glace, même si tu mets un système commun, les 5 ont une pensée différente, c'est difficile d'assembler et de faire
Oui.
marcher le collectif. Donc, c'est dans ces choses-là qu'on avait essayé de faire plus collectivement. Mais il y a vraiment ce besoin, je trouve, dans le sport de haut niveau maintenant. C'est très important dans la performance, c'est sûr.
Ouais, c'est passionnant. Bon, on aurait pu encore continuer des heures, mais là,
Ouais.
on arrive vers la fin du podcast. J'ai trois derniers petits items traditionnels. Est-ce que tu as une devise dans la vie?
Non, moi, ma devise, c'est que c'est le travail. Moi, voilà, c'est mon implication dans le, quand je m'implique dans quelque chose, je le fais à fond, quoi,
Ouais, j'avais noté que dans les mots qui te caractérisaient, c'était professionnel et engagé.
voilà.
Voilà, donc c'est ça.
J'arrive pas à faire les choses à moitié dans quoi que ce soit, quoi. On parlait tout à l'heure de ma passion du golf.
Oui.
Ben, je suis jamais satisfait au golf. Je m'en fous que je joue un jour, si j'arrive à jouer un jour une super carte, mais si j'ai pas tapé la balle comme il faut, je suis pas satisfait.
Alors,
Donc,
t'as quel
voilà.
handicap d'ailleurs?
Bon, je suis à 12, mais
Ah ouais.
ouais, j'arrive à jouer autour de 10,
Oui. Ouais, c'est.
mais c'est plus la compétition, c'est pas la compétition, c'est pas le sport, là, là, c'est vraiment comment par la balle finalement. Et vu qu'au golf, t'es jamais satisfait, c'est compliqué. Donc voilà, faire les choses à fond.
Bon, bah alors, on va finir. Alors, l'avant-dernier, c'est. Je vais te, par association d'idées, je vais te dire en un mot. Il faudra que tu me dises à quoi ça te fait penser. Par un mot ou plus. Ok.
Ma vie,
Golf.
c'est mon nouveau, ma nouvelle passion et mon. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, j'en ai besoin même. C'est un besoin. J'ai besoin d'aller pour moi, pour mon équilibre. Voilà, pour mon équilibre.
NHL.
C'est frustration et peut-être pourquoi pas encore un rêve.
Ouais. Et oui, d'aller entraîner là-bas, pourquoi pas?
Ben oui,
Et oui,
exactement.
voilà. Jeux olympiques.
Comment je pourrais dire ça? C'est l'envie, c'est vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire partager à la génération que j'ai, qui puisse vivre ces jeux, ce que j'ai vécu. C'est tellement fort en moi, c'est ce qui m'anime. J'ai envie que ce groupe-là puisse le vivre. J'étais le coach de la dernière qualification, c'est pas qualifié. Ça m'a tellement marqué, touché le vestiaire, un vestiaire déprimé comme ça, je pense que j'ai jamais vu de ma vie. Que voilà. voilà, ce qu'on a vécu en tant que sportif, les quatre jeux, même s'il n'y a pas la médaille, enfin la compétition pour la médaille, mais vivre ça, c'est ce qui m'anime. Je veux que ce groupe-là, je veux qu'ils puissent vivre ça, quoi.
En plus, ça s'était joué à rien du tout.
À un but.
Un but, mais vraiment, ouais. Rien. À la fin, la dernière possibilité, enfin, ouais. C'est fou, quoi. Ouais. Donc, les jeux, ben, Paris 2024.
Bon, là, je vais être plus terre à terre. J'espère juste que ça soit un succès pour le sport français. Parce que je sais qu'il peut y avoir des conséquences derrière pour le sport français. Ça marche pas. Donc, voilà, j'espère que ce soit une belle fête. Je regrette le côté ronchon des Français actuels. Ils se rendent pas compte ce que c'est, en fait, les jeux. Et je pense que, voilà, c'est notre travail à nous. Les sportifs, ceux qui ont vécu, donc peut-être les plus anciens, tous ceux qui ont vécu les jeux, d'expliquer ce que c'est, quoi, d'expliquer ce que c'est pour et c'est là où je disais tout à l'heure, on n'est pas un pays de sport, parce que comment on peut râler d'avoir les jeux en France, c'est incroyable, quoi. Et donc faut leur faire partager au plus de monde possible, leur expliquer surtout qu'est-ce que c'est les jeux, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut laisser. Voilà, donc je souhaite que ce soit une belle fête et bon, ça peut faire prendre conscience un peu de ce que voilà du sport, du besoin de sport en France dans notre société.
Alors coach,
frustration en fait. c'est un métier. T'es passionné dans ce que tu fais, mais c'est un métier qu'en fait t'es plus frustré qu'autre chose, quoi. Les moments de satisfaction sont très minimes par rapport à tout ce que tu vis, tout ce que voilà, t'es en permanence à gérer des problèmes ou des choses, et pour des résultats qui arrivent pas à la fin souvent. Donc c'est un métier très compliqué, franchement.
C'est sûr. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et le dernier mot, c'est avenir.
Au jour d'aujourd'hui, je suis en plein dedans, c'est plein de points d'interrogation.
Ouais.
Donc moi, c'est interrogation, puisque mon avenir va dépendre des prochains mois, là.
Oui, d'accord.
Et voilà. Donc... je me suis posé la question à un moment donné, quand justement tu te retrouves sans emploi, puisque c'est un métier qui est, comme je l'ai dit, difficile, où t'es le premier fusible qui saute. Si je partais pas dans autre chose, et puis encore une fois, cette passion qui est à l'intérieur, qui est dans moi, m'a fait continuer. Mais donc voilà, on verra dans les prochains mois. On a quand même dans le sport des beaux objectifs qui se présentent à nous dans le sport français avec 2030. Donc,
oui.
Voilà, peut-être ça peut ouvrir des choses, on verra. Si je reste pas coach.
Alors, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace?
Je suis obligé de penser au ski, mais...
Non, t'es pas obligé.
Parce que ça me fait penser à ça naturellement, de faire des belles traces aussi. Mais non, pour moi, c'est voilà, quels que soient les aléas de ta vie ou les problématiques dans ta vie, c'est essayer de justement rester dans ta trace, rester dans tes valeurs. Pour moi, c'est important de rester dans tes valeurs et de pas changer, quoi. Tu es obligé dans le monde d'aujourd'hui de t'adapter, oui, mais garde tes valeurs auxquelles tu crois.
Merci beaucoup, Philippe, c'était passionnant.
Merci à toi de m'avoir invité, surtout, et puis de via ton émission de faire parler aussi de notre sport.
Ouais. Merci.
Merci.
Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes.
Allez, tchuss!